phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Dans le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, but your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet.
Bonsoir, il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, en Crimée, l'OTAN se déploie.
Ensuite, on va parler des Roms qui n'ont pas vocation à prendre le bus.
À Calais, il y a un appel à aller défendre des squats.
Ensuite, il y a gros enjeux pour les municipales en Turquie.
Obama se la joue protecteur de la vie privée.
Ensuite, on aura des brèves des élections municipales.
Et puis, ce sera l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache ».
Et ensuite, on parlera de nouveaux traitements pour l'hépatite C, mais qui restent bien, bien trop chers.
Après, si jamais on a le temps, on aura une petite histoire de surveillance policière à Paris, mais c'est pas sûr.
Et on va commencer ce Canu Info par de l'actu en bref. Et on va commencer par un préavis de grève à France Télévisions pour les élections. Alors c'est Force Ouvrière qui lance un appel à la grève le 30 mars, le jour des élections municipales. Donc le préavis déposé sert à faire pression pour les négociations sur l'accord collectif à France Télévisions qui doit être signé demain. FO attend des réponses concrètes concernant les rémunérations des intermittents, car depuis un accord signé en mai 2013, des intermittents se sont retrouvés avec une perte de salaire sèche de 30% et allant même jusqu'à 70% dans certains cas extrêmes. Alors bon, quand même, on rigolerait bien si France Télévisions était dans l'incapacité de diffuser ses émissions le soir des élections.
En bref, un sommet pour une OTAN économique et commerciale. Donc le sommet Union européenne, États-Unis s'est ouvert aujourd'hui en présence de Barack Obama. La réunion était à Bruxelles et a permis de resserrer les liens transatlantiques en poussant à la conclusion d'un accord de libre-échange couvrant la moitié du PIB mondial. Donc ça parle gros sous. Une des raisons d'être du partenariat transatlantique qui s'appelle le TTIP est d'autant plus justifiée avec la crise ukrainienne. C'est dans ce cadre que Obama a annoncé sa venue au sommet. Celle-ci montre aux Européens l'empressement à signer un accord transatlantique, mais aussi que Washington ne se détourne pas du vieux continent parce qu'il flippe, puisqu'il a beaucoup resserré les liens avec l'Asie du Sud-Est au moyen d'un accord transpacifiste. Les pays de l'Est de l'Union réclament, eux, une réorientation de l'approvisionnement énergétique, trop dépendant selon eux du gaz naturel russe qui transite surtout par l'Ukraine. Ce sommet s'ouvre donc sur des relents de guerre froide dans un monde où le commerce est roi.
Ensuite, sexe, drogue et rock'n'roll au Vatican. Les douanes allemandes ont saisi un paquet contenant 340 grammes de cocaïne répartis dans 14 préservatifs à destination du Vatican. Alors c'est quand même pas très catholique tout ça, hein, que ce soit le contenant ou le contenu. Il y en avait quand même pour plus de 40 000 euros. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est à qui était destiné le colis, parce que bon, si ça s'était passé à l'époque de Jean-Paul II, on se doute bien qu'il lui fallait bien ça pour tenir pendant ses dernières apparitions publiques, les dernières années où il était pape. Mais là, avec le pape François, on se dit qu'un bon coup de gnôle et ça doit encore suffire pour le booster. Les douanes avaient pourtant confié le colis aux policiers du Vatican pour qu'ils puisse interpeller la personne venant chercher le colis. Sauf que la personne ne s'est jamais présentée. La thèse la plus probable, c'est que le destinataire a été informé que le colis était surveillé. Preuve quand même qu'il ne s'agissait pas de n'importe qui.
L'Égypte se recouvre d'un linceul. Donc l'Égypte est dans une situation très délicate, à moins d'un mois des élections présidentielles prévues pour mi-avril, puisque le tribunal du Caire a, en première instance, lundi 24 mars, condamné à mort 529 frères musulmans, dont Mohamed Morsi. Les accusations se réfèrent aux violences des affrontements l'été dernier, donc opposant les partisans des frères musulmans aux forces de sécurité égyptiennes. Donc ce verdict est expéditif et est décrit comme une catastrophe, une mascarade et un scandale qui aura des conséquences pour l'Égypte pendant des années par Gamal Aid, expert juridique à la tête du réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme. Il sera toutefois possible pour les accusés donc de faire appel, et il est également à noter que la peine de mort doit encore être validée par le Mufti, véritable représentant de l'islam auprès de l'État.
Mais l'autre truc à noter, c'est que sur les 529, il y en a à peu près un tiers qui sont en prison, les autres sont dans la nature. As a diamond fella, all you little boys are a comedy of errors. You below what your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're monarchy, you ain't feeling.
Crimée, l'OTAN se déploie. Kiev prenait lundi en compte le rapport de force entre les forces russes donc, et les forces ukrainiennes. Et donc le président Oleksandr Turchynov a annoncé l'évacuation des bases situées en Crimée. La Russie, elle, s'évertuerait à faire la démonstration de sa souveraineté sur cette portion du territoire. Donc sur les sites internet gouvernementaux, les cartes de Russie comprennent maintenant la région de Sébastopol et le rouble a été mis en circulation. Alors que la Crimée a connu des coupures de courant du fait de sa dépendance à l'ouest de l'Ukraine, Moscou a indiqué examiner un plan pour approvisionner la péninsule en électricité par la Russie en passant par le détroit de Kerch. Donc l'OTAN se déploie autour de la Crimée et à l'est. Donc le G7 se réunissait en marge du sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye. Les Occidentaux ont examiné lundi soir la manière de riposter à la Russie. Donc je cite Barack Obama. L'Europe et les États-Unis sont unis pour soutenir le gouvernement ukrainien et les Ukrainiens. Nous sommes unis pour faire payer un coup à la Russie pour les actions qu'elle a entreprises jusqu'ici. Et il continue, puisque son secrétaire d'État John Kerry a lui menacé la Russie d'être exclue du G8. Donc les Occidentaux font mine de croire en un risque d'une intervention russe dans le reste de l'Ukraine, arguant qu'il y aurait des troupes basées à l'est de la frontière orientale de leurs alliés. Les forces qui sont à la frontière de l'Ukraine en ce moment sont très très importantes et très prêtes, a déclaré dimanche le général états-unien Philip Breedlove. Ça lui va mal pour un général quand même. Les pays de l'Est, quant à eux, s'inquiètent. Le président roumain, Basescu, a demandé de, je cite, repositionner les ressources militaires de l'OTAN. Cette évolution est déjà en cours. Les États-Unis ont envoyé des avions surveiller les espaces aériens roumains, polonais et baltes. Et la France, donc par son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, va faire de même. C'est dit. Prête à faire de même. Voilà. Donc, c'est la guerre froide.
Alors, en France, il semble que les Roms n'aient pas vocation à prendre le bus. Bon, bien sûr, à moins qu'il s'agisse de bus qui les ramènent tout droit en Roumanie. Donc là, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va parler d'une info qui fait la une dans d'autres médias aujourd'hui. Mais alors pourquoi aujourd'hui? Eh ben, je suis pas arrivé à répondre à la question parce que l'info est quand même vieille. Et qu'il y a eu un article dans Mediapart il y a déjà une semaine. Alors bon, pourquoi nous on l'avait pas faite il y a une semaine, vous allez dire. Ça, c'est parce qu'on est nul. Parce que, voilà.
Mais on a moins de moyens.
C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que les autres, ceux qui sont payés pour faire le taf que nous on fait gratos, eux, ils pourraient au moins lire les journaux un peu régulièrement et en faire état directement, quoi. Eh ben non. Alors en fait c'est ça. Je sais vraiment pas pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui une semaine après le premier article que le truc ressort. Mais peut-être qu'on aura explication en cours de truc. En tout cas, l'affaire qui fait la une aujourd'hui, c'est l'affaire du jeune Cosmin. Alors c'est un faux prénom qui a 23 ans et qui un jour du mois de février, où il voulait rentrer chez lui. Alors bien sûr, tout ça se passe en grande banlieue parisienne, à Champs-sur-Marne précisément, dans le département de Seine-et-Marne. Il rentrait chez lui comme ça. Il arrive à l'arrêt de bus, à l'arrêt du bus 213, à la gare RER de Noisy-Champs, en direction de Logne-le-Village. Tout est très précis. j'ai dit en février, même pas, c'est un mardi de janvier. C'est en fin d'après-midi. Et là, au moment où il allait monter dans le bus, le chauffeur s'est interposé pour lui interdire l'accès. Alors qu'il a, et du coup, lui, il a sorti sa carte Navigo, hein, qui est l'équivalent de la carte Tesselli chez les Parisiens. Mais le chauffeur n'a rien voulu savoir. Donc Cosmin, lui, vit dans un cabanon situé dans un bidonville. Et alors voilà, il raconte la scène un peu plus précisément. Quand il s'est pointé devant le bus, il était avec deux collègues. Le chauffeur, et alors ils sont arrivés, au départ ils étaient seuls, le chauffeur était à l'intérieur du bus mais les portes fermées. Il y a d'autres gens qui sont arrivés, le chauffeur a ouvert les portes. Eux, poliment, ont laissé passer les autres gens. Ils ont voulu monter après. Et là le chauffeur s'est interposé. Et il leur a dit... Je cite Cosmin qui cite le chauffeur, les Roumains ils vont à pied, ils montent pas dans le bus. Donc Cosmin continue en disant que voilà, bah, il a sorti sa carte de transport, tout ça, le chauffeur il en avait rien à foutre. Oups, il y a un souci de table. Après, ce que je cite, c'est la plainte qu'il a déposée. Hein. Le chauffeur de ce bus était agressif. Et il a dit en ces termes, je m'en fous, tu peux avoir deux passes Navigo, tu monteras pas dans mon bus. Donc Cosmin a argumenté en disant c'est un transport public, j'ai le droit de monter dedans, blabla. Le chauffeur a alors dit, le bus n'est pas public, vous êtes sale, sale roumain, j'aime pas vos visages et je prends qui je veux dans mon bus. Avant d'ajouter, sale roumain, vous êtes comme les chiens. Bon, finalement, le chauffeur était tellement énervé qu'il a fait descendre tout le monde du bus, il a fermé les portes et il est resté debout, bras croisés comme ça, là, devant la porte du bus. Du coup, Cosmin et ses potes sont partis en se disant qu'ils allaient rentrer à pied. Alors, dans ces cas-là, les Roms, qu'est-ce qu'ils font? Les Roms, ils sont un peu habitués à s'en prendre plein la gueule. D'autre part, ils savent très bien que se pointer dans un commissariat quand on est Rom, ça ressemble à une blague. Enfin, on le fait généralement pas volontairement. Et du coup, normalement, l'histoire s'arrête là. Mais manque de bol, Cosmin, et donc là tout à l'heure, j'ai parlé de service civique où il se rendait. Et ben, son tuteur de service civique est un gars de cette association qui s'appelle Rome Europe. Et ce gars qui s'appelle lui François Loret. Et il a, du coup, Cosmin lui raconte l'affaire et François Loret prend l'affaire en main. Il commence par envoyer un mail à la RATP. Une semaine après, que dalle, pas de réponse. Alors il va à l'arrêt de bus où il y a plusieurs bus là, enfin ça doit être un gros truc de bus. Il essaye de parler au chauffeur au pluriel, à tous les chauffeurs qui sont là, de leur parler sur des trucs de racisme et tout ça. Il essaie aussi de trouver des témoins. Il a même un petit tract avec lui, avec un mail auquel on peut le joindre si on a des témoignages là-dessus. Et au moment où il est en train de faire ça, il y a une famille rome qui se pointe et qui veulent monter dans un bus. Et là, le chauffeur il les dégage. Donc François Loret raconte, il a dit le chauffeur a vu que je le prenais en photo, il a appelé les services de la sécurité de la RATP qui eux-mêmes ont appelé la police et au bout d'un moment François Loret donc a été contraint de supprimer la photo de son appareil. C'est donc à ça que servent les flics dans des cas comme ça. Bien sûr on parle de flics français, évidemment. L'appel à témoins a quand même été diffusé. Nanana, le 1er mars finalement la RATP répond à son mail. Et donc, euh, Alors, en disant que le correspondant de la ligne, bon, on ne sait pas ce que c'est, hein, c'est un truc dans la RATP, de la ligne 213 a été mis au courant, et la chargée de clientèle dit qu'un travail est en cours avec la mairie, les autorités, et qu'un rappel a été fait aux agents de la ligne. Alors elle dit pas, c'est pas vrai, hein, elle dit pas, ça m'étonnerait que ça soit passé chez nous, elle dit, ouloulouloulou. Une surveillance importante est en cours en ce moment, une surveillance sur les chauffeurs, hein, et elle dit qu'elle regrette cette situation. Bon, les regrets de la RATP, de la chargée de clientèle, ça n'empêche pas que les chauffeurs de bus y continuent leur vie normalement. Et du coup, des histoires, l'article regorge d'histoires, hein, une femme qui se fait sortir manu militari par le chauffeur du bus sur la même ligne, etc. etc. Bon, je ne vais pas toutes les détailler. Sur une de ces histoires, François Loret accompagne une femme au commissariat pour porter plainte, en disant que si elle y va pas toute seule, peut-être que les flics voudront bien lui parler, si ça se trouve l'appeler madame ou un truc comme ça. En tout cas, on ne sait pas comment ils l'ont appelé les flics, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas voulu prendre la plainte, ils ont dit une main courante tout au plus. Bon, dans l'affaire Cosmine, en tout cas, François Loret, là, il finit par s'adresser à ce défenseur des droits, là, qui est un machin, enfin, un bonhomme qui est censé voir quand il y a des choses vraiment trop injustes, et s'en occuper. Et alors, si ça se trouve, c'est pour ça que l'info est sortie aujourd'hui, parce que peut-être, mais ça, j'ai pas réussi à vérifier, que c'est aujourd'hui que le défenseur des droits a dit qu'il allait réellement se charger de l'affaire. Bon, en tout cas, Mediapart, ils ont aussi contacté la CGT RATP Bus. Et la CGT RATP Bus, ils sont bien emmerdés. Ils disent, ouais, c'est bon, on sait. Nous avons des remontées d'un climat de l'éther dans certains dépôts. Les machinistes ne sont pas plus racistes que le reste de la population. Mais ça, c'est sans doute vrai, hein. Ils sont comme le reste de la population. Mais on ne peut nier qu'il y a des dérapages. Ça, c'est ce que dit un dirigeant de la CGT. Une pétition anti-Rome qui dénonçait l'insécurité supposée liée à leur présence a circulé il y a quelques semaines. À la CGT, nous avons réagi auprès des agents en leur faisant remarquer que cet appel à signature était raciste. Et puis après, bon, quand même, il les excuse un petit peu, mais c'est sûr, il est emmerdé, quoi. Les conditions de travail des machinistes sont difficiles. Nous sommes soumis au stress, aux incivilités, à la pression que fait peser l'entreprise. Mais quand même, quel que soit le contexte, rien ne justifie des comportements discriminatoires. Blablabla. Bon, en tout cas, voilà, ce qu'il y a, c'est que la CGT des chauffeurs, quoi, ils sont juste pas étonnés de ça. Ils sont désolés, mais ils sont pas étonnés. Non, mais je vais m'arrêter là, en fait. Donc voilà, globalement, c'était cette histoire-là. Les Roms ont vocation à des tas de choses, mais pas à prendre le bus.
Et on va continuer continuant à parler de racisme et de fascisme, puisqu'à Calais, il y a un appel à défendre des squats. Donc je vais essayer de vous expliquer plus précisément. Donc le dimanche 13 avril, il y a des groupes fascistes, donc Jeunesse Identitaire et Sauvons Calais, qui ont été responsables de nombreuses attaques envers un squat, notamment avec des cocktails Molotov jetés sur le toit afin de brûler la maison ces dernières semaines, ainsi que de nombreux fascistes et néo-nazis locaux connus, qui vont organiser donc une manifestation à 14h30, place d'Armes, place centrale à Calais, contre, je cite, l'immigration de masse, l'insécurité, les pro-migrants et les journalistes corrompus. Donc ça se déroulera le 14 avril à Calais. Et donc il y a des personnes qui se mobilisent pour organiser un week-end pour défendre justement les squats. Puisqu'à Calais, ces manifestations servent souvent de prétexte légaux aux fascistes pour se rassembler et attaquer donc les différents squats, campements et individus. Et on a pu voir les manifestations. Il y a un écho de ouf, j'y arrive pas du tout. Ok, alors je me concentre. Euh, Alors, ces dernières semaines, il y avait eu les Sauvons de Calais qui avaient attaqué une ferme squattée. Et donc, ça montre bien à quel point, quand ils se mobilisent, il y a vraiment un souci technique très fort. Il faudrait vraiment baisser la radio. J'arrive pas du tout à... Désolé, beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Et donc, les flics, bien sûr, à ce moment-là, avec Sauvons-Calais, regardaient et rigolaient quand les fascistes attaquaient la ferme squattée. Donc, les personnes qui organisent cet événement savent très bien que ça va être des occasions de ratonnade et des attaques de squat, que les flics vont laisser faire tout ça parce que ça les arrange bien que les personnes migrantes soient un peu chassées. Et bien sûr, cette manifestation et attaque font partie d'une tentative plus large d'intimider et de décourager les migrantes d'essayer d'exister à Calais, qu'elles vont de pair avec la pression de l'administration locale pour éliminer le problème, entre guillemets, perçu des personnes immigrées et les squats de la ville. Donc bien sûr, tout cela fait partie d'un racisme enraciné plus largement et tout aussi dangereux qui existe dans l'ensemble de la société et qui est particulièrement fervent dans des zones de passage, particulièrement à Calais. Donc, ils vont essayer d'organiser une contre-manifestation le jour même, mais ils ne sont pas sûrs là, d'y arriver. C'est pour ça qu'ils appellent à une démonstration internationale de soutien. Ils appellent vraiment beaucoup de gens à venir ce week-end-là. Et ils disent qu'il faut qu'il y ait des gens qui arrivent à partir du 11 et jusqu'au lundi 14. Parce que du coup, les fachos qui vont être là, ils vont pas être là que dimanche. Ils vont en profiter aussi pour être là tout le week-end. Et s'il y a, comme ils veulent mettre en place une vigilance sur chacun des squats pour qu'aucun des squats soit attaqué, en tout cas qu'ils puissent être défendus, c'est important que si des gens y vont, ils y aillent pour plusieurs jours. Et ces derniers jours, donc ça c'est pour le climat, des petits groupes de fascistes donc ont été repérés tournant aux alentours de squats, voilà. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut être prêt à répondre à toutes les attaques potentielles et donc de renforcer certains des squats existants qui souhaiteraient plus d'occupantes pendant ce week-end-là. Et ils finissent leur communiqué sur ces mots. Nous savons que la police ne nous protégera pas. L'autodéfense est notre seule option.
Ça n'est que insuffisant pour la compréhension et la neutralisation des réseaux qui nous intéressent.
Alors, pour Obama, la collecte massive de données téléphoniques par la NSA, ça suffit. Enfin, pas tout à fait. Alors, à l'heure d'aujourd'hui où l'on parle, la NSA se fait envoyer systématiquement par les opérateurs téléphoniques toutes les métadonnées téléphoniques, c'est-à-dire numéro appelé, date d'horaire, fréquence, etc., etc., mais pas les enregistrements vocaux. Et la NSA les stocke pendant 5 ans. Alors, Obama propose une réforme qui devrait obliger la NSA à demander à la justice ses métadonnées. Donc en gros, c'est les deux changements, c'est que la NSA devra passer par un juge, ce qu'elle fait pas pour l'instant, parce qu'aujourd'hui pour l'instant c'est systématique. Bon là, personne ne se fait d'illusions sur le fait qu'on leur dira oui systématiquement. Et le deuxième changement, c'est que les opérateurs ont pour l'instant l'obligation de conserver ces données pendant 18 mois. Et ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce délai ne devrait pas augmenter. On passe donc de 5 ans de conservation de données à 18 mois. La cible de ces interceptions ne devra concerner que les, les personnes suspectées de terrorisme. Alors c'est suspecté, hein, c'est pas des gens qui ont commis quoi que ce soit. Et ce, jusqu'à 2 degrés de séparation. C'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui-même est suspecté de terrorisme, l'interception de données est validée. Aujourd'hui, la NSA a le droit de faire ça jusqu'au 3e degré. Du coup, ça fait quelqu'un que vous connaissez quelqu'un, etc.
Quelle réforme!
Eh ouais, attention, il est chaud. Ça, c'est la suite d'un discours qu'il avait dit en janvier dernier, où il avait également assuré que les dirigeants étrangers alliés ne seraient plus mis sur écoute, Sauf, alors déjà ça concerne les gens, les dirigeants étrangers alliés. Hein, donc déjà ça en fait pas beaucoup. Et sauf en cas de menace. Bon là on sait pas ce que ça veut dire. Si on dit ah, attention embargo sur les États-Unis, bim, mis sur écoute.
Bah là je pense que beaucoup de pays peuvent légitimement être mis sur écoute à l'est. Hein, je veux dire que ce soit le président roumain, polonais, russe, ukrainien, etc. quoi.
Ah, ça c'est sûr qu'à mon avis, en tout cas il n'y a pas beaucoup de monde qui risque de ne pas être mis sur écoute.
Mais c'est ça quand on dit de menace, ça veut dire que si à un moment Angela Merkel dit non quand même vous avez fait chier avec mon téléphone, puisque ça on va... Peut-être qu'on réfléchirait à retarder de plusieurs jours une discussion commerciale importante, et bien ça c'est une menace. Non
c'est ça, ou alors peut-être que, ou en cas de menace, c'est peut-être pas si un pays fait une menace aux États-Unis, mais si à un moment donné les États-Unis se sentent menacés par une menace terroriste, comme ils se sentent quand même souvent le cas, ils disent bon allez hop on réactive tout ça, on sait pas encore exactement ce que veut dire ce sauf en cas de menace. Et puis de toute façon, il a précisé qu'il continuerait, alors là je cite, à réunir des informations sur les intentions des gouvernements à travers le monde. Bon ça, il a précisé comme tous les pays le font, et de rajouter, ça vaut pas, c'est pas la peine non plus de de faire tout un bruit autour de ça. On va, et là je cite, on ne va pas s'excuser juste parce que nos services sont peut-être plus efficaces que les vôtres. Voilà. Concernant le programme Prism, alors je le rappelle en très résumé, en tout cas il n'en a pas parlé et compte bien le maintenir. Pour rappel, c'est le programme qui permet à la NSA de collecter tout un tas de données informatiques et électroniques à travers notamment Internet dans le monde entier. Voilà, ça, c'était en gros, mais ça il n'en a pas du tout parlé. Obama a donc été obligé de prendre ses mesurettes, hein, quand même, c'est vraiment du maquillage, pour rassurer les citoyens américains, et également parce que depuis les révélations d'Edward Snowden, beaucoup d'entreprises américaines ont perdu énormément d'argent, comme par exemple IBM qui a vu ses ventes de matériel informatique chuter en Chine de près de 40%, soit 12 milliards de dollars de pertes pour la société. Et autre exemple, c'est Cisco Systems qui a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 8 à 10%, provoquant une chute de son action de 10%. Ce qui est pas mal quand même. Donc économiquement, ça leur fait mal, du coup, ils réagissent un tout petit peu. Parce qu'en vrai, je pense que pour les citoyens, ils s'en tapent.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Alors, comme chacun sait, les élections municipales, c'est dimanche. Et ben non, vous en faites pas, je vais pas me mettre à vous parler de la France, c'est naze. Et puis de toute façon, si vous tenez à savoir des choses sur les municipales en France, il y a des tas d'autres radios qui vous en parlent à longueur de journée. Non, non, il s'agit là de municipales en Turquie, parce que c'est aussi dimanche. Et alors, voilà, en Turquie, bon, ça a l'air d'être un peu difficile de faire des prédictions parce qu'on ne sait pas trop pour qui les gens vont arriver à avoir envie de voter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'AKP, qui est le parti de Erdogan, le parti au pouvoir, donc islamo-libéral, eh ben, lui, il a sacrément du plomb dans l'aile. Alors, un petit résumé des dernières casseroles qui se trimballent. On a qu'à remonter au printemps dernier. Hein. Au printemps dernier, les événements du parc Gezi, là, l'espèce de mouvement d'indignés à la Turque, la répression qui a suivi, etc. Ouh, ça, c'était déjà pas facile. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé. Et puis, tout d'un coup, ça a commencé le 17 décembre dernier. Là, ça a été les révélations sur les scandales de corruption et suite au, enfin, là, pendant une paire de semaines, là, chaque jour, il y avait des nouvelles révélations un peu gigantesques sur des ministres du gouvernement qui étaient impliqués dans des scandales, des trucs complètement dingues. Ce qui fait que la moitié du gouvernement a été obligé de démissionner les uns après les autres. Et puis, tous ceux qui ont démissionné ont été mis en examen par la suite. Après, c'est pas comme si ça s'était arrêté, puisqu'il y a une semaine, ça on vous en avait parlé, il y a ce jeune Berkin Elvan, qui est un adolescent, qui avait 15 ans, qui était sorti de chez lui pour aller faire des courses, un jour de manif, pendant ces événements du parc Gezi, donc au mois de juin, et là qui s'était pris, je sais même pas quoi d'ailleurs, un flashball, ou en tout cas, qui avait pris un truc qui fait qu'il était dans le coma jusqu'à la semaine dernière, et puis la semaine dernière, eh ben, il a fini par en mourir. Et là, du coup, à nouveau, grosse manifestation, à nouveau, grosse répression. C'est pas facile pour le gouvernement. Et puis, alors là, Erdogan, tout en finesse, à ce moment-là, au moment de la mort de ce Berkin Elvan, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a qualifié le défunt de casseur au service d'une organisation terroriste. Donc, alors que, par ailleurs, on sait qu'il était donc sorti acheter le pain. Et ultime provocation jeudi dernier, en s'appuyant sur la nouvelle législation qu'il a fait promulguer en urgence à la mi-février, le gouvernement turc a interdit l'usage de Twitter. Bon, en réalité, enfin, c'est pareil, Internet, c'est quand même pas toujours facile à gérer pour les gouvernements, hein, parce que là, tout à l'heure, si on tapait Twitter Turquie dans Google Actualité, là, c'est, globalement, il y avait plein d'articles qui disaient que Twitter était vachement plus utilisé depuis qu'il était interdit en Turquie. Donc, finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, Erdogan est quand même un naze. Et donc, il a évoqué la menace d'un complot électronique contre la Turquie, et voilà, il a fermé le réseau social, et il a menacé après de s'en prendre au site vidéo en ligne YouTube. Mais en même temps, je sais pas s'il va le faire, parce que bon, d'une part, c'est pas efficace, comme on vient d'en parler, et d'autre part, la justice turque a aujourd'hui ordonné le rétablissement de Twitter. Je trouvais que c'était pas, alors ça j'ai pas regardé le détail, hein, mais que l'interdiction de Twitter là, avait pas été légale. Bon, pour autant, on sait pas trop pour qui les Turcs vont voter, parce que a priori l'autre parti important c'est le CHP, mais le CHP c'est l'équivalent du Parti Socialiste, alors qui c'est qui voudrait avoir envie de voter pour eux? Et ben ça, on n'en sait rien, mais il semble que les Turcs pas plus que les gens raisonnables. En tout cas, pour ce qui est du fameux sud-est de la Turquie, là, c'est-à-dire en gros le Kurdistan, là il y a un petit peu d'autres enjeux que voici. Du coup, les discussions entre le gouvernement turc et les rebelles du PKK sont suspendues depuis des mois en fait. Ah non, pardon. Sont englués depuis des mois et sont suspendus au résultat des élections municipales. Élections dont les Kurdes, du coup, espèrent beaucoup. Alors, on a cette Gülten Kösanak, qui est coprésidente du Parti pour la paix et la démocratie, le BDP, qui est en gros la branche légale du mouvement autonomiste kurde, c'est-à-dire la branche légale du PKK. Et donc, Gülten Kösanak, elle brigue la mairie de Diyarbakir, avec de bonnes chances de l'emporter. Donc, Diyarbakir, qui est la grosse ville du Kurdistan, quoi, la capitale du Kurdistan. Alors, le BDP, c'est très résumé, hein, mais les actes de revendication du BDP, c'est même pas une indépendance du Kurdistan, hein, c'est une large autonomie des régions à majorité kurde, la reconnaissance de leur spécificité dans la constitution et le droit à l'enseignement public dans leur langue. Bon, pour Gülten Kösanak, le vote de dimanche doit permettre de relancer le processus de paix engagé pour mettre un terme au conflit kurde. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que le gouvernement n'a pas été capable de démontrer son esprit démocratique avant ces élections, mais si nous sortons plus forts de ce scrutin, alors nous n'aurons pas besoin de l'attendre pour avancer. Chaque voix pour nous viendra conforter le BDP comme acteur incontournable de toute solution. Alors, on refait encore un tout petit peu de contexte, hein, mais c'était à l'automne 2012 que le gouvernement turc, donc c'était déjà Erdogan, avait engagé des discussions avec le chef du PKK, Abdullah Öcalan, qui est en prison, hein, mais qui continue à être le chef du PKK quand même. Ces pourparlers avaient abouti en mars 2013 à un cessez-le-feu unilatéral des combattants kurdes et à l'amorce de leur retrait vers leur base au nord de l'Irak. C'est-à-dire, eux, ils avaient dit, ok, c'est bon, nous, on arrête la guerre, en tout cas, on se taille de Turquie, et puis on continue à discuter sans s'entretuer. Mais ce repli avait été suspendu à l'automne suivant, puisque il y a six mois, au moment où les Kurdes ont jugé que le gouvernement n'avait tenu aucune des promesses qu'il avait faites. Alors bien sûr, fin 2013, Erdogan avait fait voter une sorte de paquet législatif dont on avait parlé ici, hein, notamment sur l'enseignement en langue kurde dans le secteur privé, sur le droit pour les accusés kurdes de se défendre dans leur langue, mais en tout cas c'était quand même vraiment pas grand chose par rapport à ce que les Kurdes demandaient. Et après, malgré ce blocage des négociations, les Kurdes ont plus vraiment tiré depuis qu'ils avaient annoncé ce cessez-le-feu. Il n'y a plus de combat, quoi. Donc, l'AKP, le parti de Erdogan, espère aujourd'hui tirer les bénéfices de ce climat apaisé, en tout cas, et piquer la mairie de Diyarbakir au BDP. Donc pour l'instant, c'est un maire BDP, mais là, l'AKP, eux, ils espèrent bien être élus en disant « Oui, bon, maintenant, ça va mieux quand même, il n'y a plus personne qui se tue, tout ça. » Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, et un des chefs militaires du PKK, qui s'appelle Murat Karaylan. Lui, il a plutôt dit « Le processus de paix s'arrêtera si le gouvernement ne prend pas de mesures une ou deux semaines après les élections. » Du coup, voilà, là, au moins, il y a un ultimatum. On sait où on en est. Et puis, il faut encore dire, toujours du côté de Diyarbakir, qu'il n'y a pas que l'AKP et le BDP. Il y a aussi un autre parti, c'est le parti Hudapar, qui est un parti islamiste et pro-kurde. Et que cela, du coup, ça a l'air que les militants se mettent sur la gueule avec les autres militants kurdes du BDP. Voilà où on en est pour les municipales en Turquie.
Alors, même si on ne parle pas des municipales, on va en parler un tout petit peu, mais quand même sur les trucs rigolos, parce que quand même, ça nous fait bien marrer tout ce cirque. Et là, on va aller à Châteauroux, alors c'est dans le département de l'Indre, dans le centre de la France, et où le PS est prêt à tout pour conquérir la mairie. Alors, eux disent que c'est pour faire barrage aux candidats UMP arrivés en tête au premier tour, sauf que dans les faits, ils font liste commune avec deux autres listes divers droites, dont l'une des deux têtes de liste est Régis Tellier, qui est signataire, donc qui engage sa liste divers droite, de la charte de la Manif pour tous. Alors, vous savez, la Manif pour tous, c'est ce mouvement réactionnaire qui a fait tout un travail de lobbying auprès des candidats pour les municipales pour qu'ils s'engagent contre le mariage homosexuel, contre la théorie du genre, et en gros, pour la famille traditionnelle catholique, etc., etc., etc. Alors, voilà, donc le PS s'engage auprès de militants d'extrême droite, hein, quand même. Cette liste se définit elle-même comme une liste de, je cite, citoyens aux sensibilités différentes. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Si vous voulez y aller, allez-y. Hein.
Il faut être animé les discussions au conseil municipal.
Ouais, ça risque d'être sympa. Et elle s'est également baptisée Rassemblement pour servir Châteauroux. Alors de là à penser au Rassemblement Bleu Marine du Front National, il n'y a qu'un pas. Ensuite, à Nantes. Alors là, à Nantes, c'est assez rigolo parce que EELV, alors pour Europe Écologie Les Verts et le PS, sont cul et chemise car ils ont fusionné à Nantes pour les municipales. Et alors, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, ils ont fait la même chose que pour rentrer au gouvernement. Ils s'en tamponnent. Ah si, pour être honnête, ils ont négocié non pas un moratoire, ce qui reviendrait à stopper les travaux, mais un accord de principe qui consisterait à ne pas commencer les travaux avant que tous les recours juridiques soient épuisés. Bon, point sur lequel Héros s'était déjà engagé il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, du côté de Notre-Dame-des-Landes, bon, là, la vraie, c'est une liste contre l'aéroport qui a été élue. Bon, en même temps, il aurait été suicidaire de faire une liste pour l'aéroport, je pense. Ou alors, il ne fallait vraiment pas avoir envie d'être élu à la mairie. Quand même, ça aurait été, je sais, peut-être qu'il y en a quand même, on ne sait pas.
Hein. Bah pas oui, il y en a, mais...
Ça aurait été drôle. Et quand même, alors là c'est quand même le palmarès des villes qu'on préfère, c'est les villes les plus abstentionnistes, hein, comme nous tous. Arrivé premier ex aequo, Villiers-le-Bel, Vaux-en-Velin représente quand même.
Ouais.
Et Roubaix avec 62% d'abstention, la classe. Deuxième ex aequo avec 61% d'abstention, on a Bonneuil-sur-Marne dans le Val-de-Marne, Évry. Bon, c'est vrai quand même, quand on s'est tapé le Vals comme maire, ça donne plutôt envie de rester chez soi le jour des élections. Estin en Seine-Saint-Denis. Troisième, on a Clichy-sous-Bois avec 60% d'abstention. Quatrième ex aequo, Bobigny et Fort-de-France en Martinique avec 59% d'abstention. Et pour finir, cinquième ex aequo avec 58% d'abstention, nous avons Pierre Fitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, Sarcelles dans le Val-d'Oise, Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, Aubervilliers en Seine-Saint-Denis également, Ternier dans l'Aisne et Vitry-sur-Marne. Alors, par exemple, tous ces taux d'abstention, une petite... comme ça, pour parler chiffres un peu, ce que ça représente à Vaux-en-Velin, ça donne une élection un peu bidon, car la liste socialiste qui est arrivée en tête avec 27% des voix, et ben une fois qu'on ramène...
27% de 40%.
Ouais, c'est ça, en fait, du coup, ça représente quand même 2179 bulletins. Donc les 27, ils sont en tête avec 2179 personnes qui ont voté pour eux. Alors c'est vrai que sur une commune de 42 700 habitants et 21 993 inscrits sur les listes électorales, ça fait quand même des élections, un bon cirque ou une bonne mascarade, c'est comme on veut.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
papiers.
Il est sans papiers, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papiers.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors, on va commencer ce Faut que ça sache sur le centre de rétention de Corso Brunelleschi. C'est le centre de rétention de Turin dont on avait parlé la semaine dernière, qui avait brûlé et du coup...
Et brûlé.
On n'a pas arrêté de brûler quand même dans tous les sens. Donc suite à ces 500 incendies au centre de rétention de Turin, 6 retenus sont arrêtés et jugés pour avoir participé au feu de joie, avec comme seule preuve de leur implication une caméra de surveillance qui les aurait filmés et qui a malheureusement oublié d'être détruite pendant la révolte. Sauf qu'au moment de l'audience, pour l'audience qui servait à valider un peu leur incarcération. Leur incarcération à la prison, cette fois-ci pas en centre de rétention. Il y a eu un défaut de procédure. Le défaut en question, c'est le temps entre le délit commis et les arrestations qui a été trop long. Et donc la justice a considéré qu'on n'était plus dans ce qu'on appelle un flagrant délit. Et la procédure est donc nulle. Les 6 Nigérians incarcérés en question sont donc libérés. Alors là... quand même un flic qui était présent à l'audience et qui, je pense, a participé activement à leur arrestation. Bon, c'était pas bien compliqué, ils étaient en centre de rétention, attention quand même. C'est offusqué, il dit « Mais comment ça? Ils nous autorisent à mettre des caméras et quand ils sont filmés, ils ne les emprisonnent même pas. » Bah oui, bah, en même temps, il y a des procédures, faut les respecter. Hein. Couillon. Parce qu'on sait quand même que les flics, les erreurs de procédure, ils aiment pas ça du tout. À chaque fois comme ça, ils arrêtent des gens, pute, et ils leur glissent comme un savon mouillé entre les mains. Mais voilà. Mais bon, comme la préfecture a bien décidé de s'acharner sur ces révoltés, dans l'urgence, ils ont organisé un vol à destination de Rome pour 4 des 6 Nigérians, ce qui est un peu dans le but d'éclater le groupe. Je sais pas trop pourquoi ça sert d'autre, mais bon. Et les 2 autres sont reconduits au centre de rétention de Turin. Du coup, bilan des courses. Sur les 6, il y en a 4 qui ont déposé des demandes d'asile, ce qui fait qu'ils sont pour l'instant au centre de rétention, mais de toute façon, ils ne sont pas expulsables. Voilà, mais en tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que plus personne n'est dans une prison traditionnelle.
Il faut que ça se sache.
Solidarité avec Thaïs. Donc c'est au lycée Suger de Saint-Denis. Donc les camarades d'une élève brésilienne qui est menacée d'expulsion se mobilisent. Donc ils ont le soutien de parents, d'enseignants et de la mairie. Donc Thaïs Moreira a reçu le 7 mars une OQTF. Donc elle vit en France avec sa famille depuis juin 2009. Donc à partir de là, ses camarades de classe ont écrit une pétition et ont recueilli plus de 700 signatures. Donc des élèves de Suger mais aussi d'autres lycées, notamment le lycée voisin, celui de Paul-Éluard. De leur côté, RESF et la FCPS sont aussi mobilisés, écrit une pétition. Et hier, mardi, 150 élèves, enseignants, parents et élus sont rassemblés devant le lycée. Le 2 avril, RESF a rendez-vous en sous-préfecture pour plusieurs dossiers, dont celui de Thaïs. Et donc, les personnes mobilisées promettent de continuer jusqu'à la régularisation de cette meuf. Donc, on espère que l'issue sera positive. I'm a dreaming, the tune's ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
De nouveaux traitements disponibles pour l'hépatite C.
Mais bien trop cher, bien trop cher. Donc en fait, c'est récemment dans la presse, il y a Jean-François Delfrécy, qui est le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, qui s'est enthousiasmé de la mise en place d'un nouveau traitement qui est capable d'éradiquer l'hépatite C à plus de 90%. Avec un traitement de quelques semaines uniquement. Donc en fait, c'est vrai que là, actuellement, les personnes qui sont touchées par l'hépatite C ont en général des traitements très durs, très longs, et qui peuvent s'étaler des fois sur un an et demi, deux ans, etc., avec des effets secondaires très très lourds. Et que là, il y a des nouvelles molécules, il y a plein de labos qui ont fait des recherches, et il y a plein de nouvelles molécules qui ont été mises en place, qui vont être mises sur le marché, et qui feraient qu'avec des traitements très courts, les personnes, elles arriveraient beaucoup mieux à être soignées, et avec des résultats meilleurs et beaucoup moins d'effets secondaires, beaucoup moins de toxicité, et surtout beaucoup moins d'effets sur la dépression et l'anxiété, ce qui était quand même un petit peu le problème de l'interféron, qui était la molécule qui soignait bien l'hépatite C, mais qui donnait à tout le monde envie de se flinguer ou de se foutre par la fenêtre, ce qui est quand même un effet secondaire un peu emmerdant. Et donc là, il y a à peu près 25 molécules qui vont être mises sur le marché dans les années à venir. Et bon, ça fait vraiment de l'espoir pour tous les malades dans le monde. En France, c'est 230 000 personnes qui sont atteintes par l'hépatite C. Et du coup, ça dégénère en cirrhose, cancer, etc. Et du coup, c'est pas mal d'espoir. Là, le traitement qui commence à être testé aux États-Unis, c'est un traitement qui s'appelle, c'est une molécule qui s'appelle le sofosbuvir, et avec un traitement de 12 semaines, on observe un résultat vraiment super bon. Et il y a un petit problème, c'est le coût de ce traitement-là. Donc, le comprimé de sofosbuvir aux États-Unis est facturé 1 000 $ à peu près.
Quand tu dis le, ça veut dire c'est vraiment un comprimé.
Le
quoi.
Comprimé. C'est-à-dire, si tu le laisses tomber par terre et que ton chien le bouffe, c'est mort. Donc en fait, à peu près 1 000 $, en fait, c'est 730 €. Donc voilà. Le traitement complet de 12 semaines, alors il est très court, ce traitement complet de 12 semaines, voilà, super, mais il coûte la bagatelle de 84 000 $. Bon, alors ça veut dire qu'en France, si on traite la moitié des personnes qui sont atteintes d'hépatite C, la moitié seulement, alors on les trie, on les classe, on ne sait pas comment, mais si on veut traiter la moitié des personnes, ça représente l'équivalent du budget total des hôpitaux publics parisiens.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est vraiment là, c'est le laboratoire Gilead qui commercialise cette molécule là qui s'appelle le sofosbuvir. Et du coup, comme
mais
ils sont
commercialisent, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'achètent quand même.
Oui, aux États-Unis, c'est déjà parti, ouais. C'est il y a une autorisation de mise sur le marché et ça a commencé. En mais France, pas encore.
Plus ce médicament il sera produit, plus le prix va baisser, non?
Mais c'est là que tu vas voir la conception des mathématiques assez particulière de Gilead, parce que Gilead, dans leur grande mansuétude, qu'est-ce qu'ils disent? Bah comme il est cher. Bah il est cher parce que c'est à cause de la recherche, vous voyez, ça coûte plein d'argent, tout ça. Mais nous, comme dans notre grande mansuétude de labo, on va faire un prix élevé dans les pays riches, on va faire un prix moindre dans les pays intermédiaires, et on va donner l'autorisation de générique dans les pays pauvres. Et là, tout le monde fait « Ah, merci, merci ». Ben non, ah ouais. Non, tout le monde, enfin, les assos en tout cas, disent « Faut arrêter de vous foutre de notre gueule ». Et qu'est-ce qu'on dit ACT UP? Parce que du coup, c'est intéressant de savoir ce que dit la commission internationale d'ACT UP à ce propos-là. Donc ACT UP fait un petit exercice de maths en disant qu'il faut d'abord rappeler tout d'abord que Gilead, qui nous rappelle sans cesse que la santé a un prix, a fait un bénéfice sur l'année 2013 de 3,07 milliards de dollars. Mmh. Voilà. Ça veut dire que, en fait, ils disent, si on divise le prix auquel Gilead a racheté cette molécule, en gros, Gilead a acheté cette molécule à un autre labo qui avait fait des recherches et tout, ça leur a coûté 11 milliards de dollars. Bon, on prend ces 11 milliards de dollars, on divise par le nombre de personnes infectées par l'hépatite C dans le monde, 185 millions, et on obtient quoi? 60 $. Ok, d'accord. Bon, on rajoute le coût de production. Le coût de production du Médoc, et ce coût de production, il est estimé par la Société internationale de lutte contre le sida, qui est vraiment une référence, hein, c'est pas une bande de guignols, c'est le truc super institutionnel, ils disent que ça fait 134 € pour produire 12 semaines de traitement. Donc du coup, si on obtient tout ça, on arrive à 200 € le traitement par personne. Donc là, $200 le traitement par personne.
Du coup, le traitement, là, on n'est plus sur un comprimé, mais sur les 12 semaines.
Ouais. Sur les 12 semaines, le coût de production, en comptant ce que ça coûte à Gilead, en comptant tout le processus de recherche, le coût de production, etc., etc., c'est que ça leur coûte $200 le traitement. Et ils le revendent $84 000. Donc, et par contre, en Inde, ils le revendent $2 000. Ils font quand même une marge de 100 fois plus, quoi.
Ouais, mais les pauvres, il faut quand même qu'ils payent le gardien en bas de l'immeuble. Et c'est compté dans les coûts de production.
Mais ça, c'est peut-être. Ça. Alors, ACT UP s'est demandé si Gilead était nul en maths. Mais non, c'est pas vraiment ça. Et c'est que tout bêtement, encore une fois, il y a un labo qui crache à la gueule des gens qui sont malades. Et plutôt que de rendre son nouveau médoc accessible à toutes, le labo préfère vendre très cher aux plus riches et maximiser ses profits au nord comme au sud, parce que la santé des pauvres, Gilead n'en a rien à faire, parce que c'est pas du tout rentable.
Donc on sait où faut aller travailler, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors, pour la petite citation, quand même, les labos qui, à chaque fois, disent « Ouais, mais vous vous rendez compte, nous, on fait plein d'efforts pour les malades, etc., etc. » Juste dans les petites notes de bas de page là qu'on a dans le communiqué de presse d'ACT UP, on a quand même la déclaration qu'a faite dans la presse Marine Dekkers, qui est le PDG du labo allemand Bayer, qui fait vraiment plein de médocs et plein de médocs VIH. Une petite déclaration dans la presse, entre guillemets, « Nos médicaments ne sont pas développés pour les Indiens, mais pour les patients occidentaux qui peuvent se le permettre. » Bon, Bayer et Gilead, c'est la même bande. C'est la même bande. Et donc finalement, ACT UP nous dit que les malades de l'hépatite C et les personnes qui sont co-infectées par le VIH et l'hépatite C refusent de mourir à cause de la cupidité des labos. Et ils exigent des pouvoirs publics français qui fixent un prix raisonnable pour cette molécule, le Sovaldi, ça c'est le nom commercial du médoc. Et qu'ils accordent une association aux assos de malades, une représentation au comité économique des produits de santé qui fixe le prix des médicaments. Il y a un enjeu que les assos de malades, elles arrivent à siéger dans ces comités-là pour donner leur avis. Et ACT UP demande aussi au pouvoir public français de soutenir les pays à revenus faibles et intermédiaires pour qu'ils puissent produire et importer des versions génériques de ce médoc. Et puis il y a deux petites demandes qui sont faites à l'Organisation mondiale de la santé. Elle pourrait tout simplement inscrire cette molécule sur la liste des médicaments essentiels, ce qui du coup ouvrirait la possibilité d'en faire des génériques et de faire baisser le prix, etc., etc. Et puis accessoirement, l'Organisation mondiale de la santé pourrait un jour réfléchir à abolir les brevets sur les médicaments.
Oui, mais attends, il faut qu'il se fasse un ou deux ans de beaucoup de bénéfices sur ce médicament avant d'en faire un générique, quoi.
Oui, mais c'est ça. Mais Gilead, comme ils sont super sympas, après, ils ouvrent des petits appels à projets pour les associations en disant, si vous voulez, on vous donne 5000 balles pour faire un projet de prévention super bien. Voilà, comme ça, ils engrangent un peu de l'argent et puis ils font croire qu'ils redistribuent un petit peu.
Mais parce que là, comme on a 5 minutes et vraiment plus rien d'autre à dire, toi, peut-être, t'es capable de dire un peu, il n'y a plus aucune recherche publique en termes de médicaments, ça n'existe plus, ça, ou quoi?
Non, quasi plus. Un peu dans les hôpitaux. Mais non, dans les hôpitaux, la recherche, elle est souvent pas autour des médicaments.
Parce que c'est ça qui fait qu'il peut y avoir des histoires comme ça, c'est que les recherches, c'est des labos privés, et du coup, qui les font. Enfin, je veux dire, effectivement, qui en ont rien à foutre de la santé des pauvres malades, mais parce qu'ils sont pas là pour ça, quoi.
Et oui, mais ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que comme la recherche fondamentale, il y a très peu de financement pour juste chercher pour chercher, c'est des labos privés qui s'en chargent. Après, et ça, dans la lutte contre le sida, c'est depuis le début, il y a des enjeux de laboratoire qui sont hyper forts. À savoir qu'au début des années 80, dans l'épidémie de sida, quand il n'y avait pas encore de tests de dépistage qui étaient mis au point, et que du coup, les gens ne pouvaient pas savoir s'ils étaient séropos ou pas, ce qui était quand même assez inquiétant, il y a deux équipes qui ont travaillé parallèlement sur la réalisation et la mise au point d'un test de dépistage, et il y a eu une équipe de Pasteur en France, et il y a eu une équipe, un labo américain dont le nom m'échappe, aux États-Unis. Le labo américain a réussi à mettre en place le test de dépistage en 84, fin 83 ou 84. Et donc voilà, ils avaient un test disponible. Et en fait, la ministre de la Santé de l'époque, qui était, je crois, Georgina Dufoy, Oui, la même qui a trempé dans le sang contaminé, celle-là même. Elle a refusé que la France achète des tests de dépistage à ce labo américain parce qu'il y avait Pasteur qui était en train d'arriver sur la fin de leur recherche. Et donc, elle a préféré attendre que Pasteur mette au point son propre test de dépistage pour des raisons financières et économiques. Et du coup, ça veut dire que ça a privé les personnes en France de la possibilité d'avoir recours au dépistage pendant un an et demi. Ce qui est juste considérable quand on voit comment l'épidémie, elle galopait à cette époque et comment elle se transmettait. Et du coup, voilà, c'est toujours ça le problème. C'est toujours ce problème des labos. Et que les États refusent, parce que ces labos sont une force économique forte pour les États, ils refusent de les contraindre, en fait.
Non, mais c'est ça. Et du coup, là, si, comme tu le disais tout à l'heure, on abolissait les brevets sur les médicaments, qu'il n'y avait plus de brevets, en fait, il n'y aurait juste plus aucune recherche dans la mesure où il n'y a pas de recherche publique. C'est-à-dire qu'il faut... cette histoire d'abolir les brevets, ça ne pourrait marcher qu'avec une recherche publique réellement...
Oui, mais ça existe dans certains pays, par exemple l'Inde et le Brésil, qui eux se sont dit, c'est pas possible, l'épidémie de VIH, elle est trop galopante, et eux, ils ont fait passer des lois qui autorise qui fait sauter les brevets au bout de quelques années, qui autorise la mise en place de génériques. Mais ça veut dire que eux, ils investissent des fonds publics à fond dans la recherche et qu'ils ont un budget autour de la recherche et de la santé qui est énorme.
Et bien sûr, l'Occident, on pourrait dire, ne va pas faire ça parce que c'est anti-marché.
C'est anti-marché, et puis l'Occident considère, en tout cas en France, on considère qu'on investit déjà trop dans la santé puisque... la Cour des comptes, elle recommande encore de réduire les dépenses de sécurité sociale. On a plutôt des franchises médicales et des choses comme ça. Donc c'est pas du tout, en tout cas, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays occidentaux, mais en France, c'est pas du tout à l'ordre du jour d'augmenter